Bon, bah écoutez, on va commencer après les réglages techniques de ce machin-là. Voilà, alors vous avez l'image de titre. On va embrayer un petit peu en rappelant ce qu'on avait vu la semaine dernière, toujours sur notre histoire de la Sibylle et d'Octavien, puisque c'est de ça qu'il est question. J'ai essayé de continuer à trouver des illustrations dans la mesure où vous savez très bien le rapport intense qu'il peut y avoir entre le théâtre et l'illustration des vies de saints ou des martyrs ou des passions. Je relisais hier Émile Malle, La religion en France à la fin du Moyen Âge, admirable lecture que je vous invite à lire, où il y a une quarantaine de pages qui montrent justement ce type d'interaction. Ici, donc, dans Le Maître de la Sibylle Tiburtine, vous avez à nouveau, on est en Allemagne à la fin du XVe siècle, une représentation donc de la Sibylle et d'Octavien, avec le fait que, pour une fois, par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, la Sainte Vierge est tout à fait en haut à gauche, et le regard tombe naturellement sur Octavien et la Sibylle en train d'admirer et de prier. Ce qui est exactement la dynamique inverse du tableau de Caron que vous aviez vu à la fin du cours précédent, où cette fois-ci, vous avez une grande diagonale qui traverse le tableau entre ces personnages-là, le geste de la Sibylle qui nous permet de voir la Vierge ici. Vous noterez au passage avec intérêt sur ce tableau de Caron, qui est un des peintres de la Renaissance très sympa. En plus, Caron, en général, vous raconte le massacre des innocents, l'enlèvement des Sabines. Il a des scènes absolument gore, avec des morceaux de sang partout, dans des paysages antiques très très jolis. Là, on a quelque chose de charmant. Vous pourrez remarquer que les deux colonnes qui sont là ressemblent tout à fait aux colonnes que vous avez autour de l'autel de Saint-Pierre de Rome. On est vraiment dans une esthétique Renaissance. Ce qui me paraissait intéressant, après vous avoir donné ces deux rappels, c'est de vous donner le texte qui se trouve donc dans le mystère de l'incarnation de Rouen 1474, où la Sibylle dit: Approchez, qu'elle soit connue, nous en avons ardeur fervente. Je m'attends bien que votre entente sera tantôt satisfiée, scintillée, la bonté patente du grand Dieu soit magnifiée. Et Sibylle dit: Votre face soit élevée vers le ciel. Volontairement, fait Octavien. Regardez la très bienheureuse Vierge qui fait l'embrassement de l'enfant en bénignement. Ô noble démonstration! On la voit manifestement, ce Phémon, en effet. Très bien la voyons, plus plaisante elle est qu'un rayon de soleil dont elle est enclose. Donc une Vierge entourée de soleil, amicta sole, c'est ce que vous avez aussi dans les représentations de la Vierge de l'Apocalypse. C'est une déclaration excellente, bien dit Rlose. Ô fleur, ô précieuse rose qui a porté un enfant tel que de sa puissance il n'est chose plus grand, elle passe tout mortel, elle semble être sur un autel, cette mère du roi des rois. C'est intéressant, elle semble être sur un autel. Et Uriel, l'ange qui apparaît quand on a besoin de lui, dit: Il est nommé autel du ciel, ainsi appelé tu le dois. Avez-vous point ouï la voix qu'avons oui, vraiment, telle une ouïe passée de moi? Avez-vous point ouï la voix que dit-elle, mots beaux et courtois? Dites-nous tout certainement, avez-vous point ouï la voix qu'avons oui, vraiment? Tiens, vous apercevez que là, on a l'impression que c'est un petit peu en boucle. C'est un petit peu en boucle et c'est intentionnellement. Vous aurez dans les passions, dans les miracles, dans les mystères, assez régulièrement des insertions de pièces lyriques. Ici un rondo, parfois une ballade, parfois même un chant royal, qui fonctionnent exactement comme des points fixes à l'intérieur de la narration. Un rondo se caractérise comme forme strophique par le fait qu'il y a des vers qui se reprennent. Vous les avez vus ici. Comme si, d'une certaine façon, tout le monde s'arrêtait. Ce n'est pas l'histoire, la progression dramatique qui compte, mais le moment un petit peu de réflexion, de calme, de méditation que ça implique. Et cette méditation, vous l'avez donc, avez-vous point ouï la voix, que dit-elle, etc., qui va revenir à diverses reprises. Donc, si vous voulez, ce travail du rondo, de la pièce lyrique à l'intérieur d'un mystère peut avoir de l'intérêt. Et ce qui me paraît intéressant, c'est de voir que dans d'autres versions, comme celle-ci qui est au Chlorestos, mais dont je n'ai pas réussi à retrouver le nom de l'auteur, on retrouve effectivement ici la Vierge tenant l'enfant. Mais si vous regardez sur ce tableau-là, la Vierge est assise sur un autel. Elle est effectivement, et c'est la représentation la plus fiable, elle est bien Notre-Dame in Araceli. Alors, je passe à un autre texte maintenant, juste pour vous montrer un petit peu comment fonctionne toute cette histoire d'établi. La vengeance de notre Seigneur, c'est le récit du jugement dernier, une sorte de raccourci entre la prise de Jérusalem et le châtiment des méchants. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont le texte commence. Et le texte, il va se retrouver avec le prologue qui décrit. En cette manière, récitons la sainte résurrection. Premièrement, appareillons tous les lieux et les mensillons, le crucifix, premièrement, et puis après, le monument, c'est-à-dire le sépulcre. Une jaio l'idée taver pour les prisons de s'emprisonner. Il faut qu'il y ait une geôle pour emprisonner les prisonniers. Enfer s'est mis de celle part, et ce mensillon de l'autre part. Et puis le ciel. Et aux estases, prime, Pilate, aux ses vassals. 6 ou 7 chevaliers aura. Caïphas en l'autre sera, lui sera la juerie, c'est-à-dire tout le tribunal juif. Et puis Joseph d'Arimathie, et le carlieu, c'est dans Nicodème. Au quatrième endroit, à côté de Joseph d'Arimathie, vous aurez Nicodème. Vous avez ainsi une sorte de répartition spatiale, géographique, imaginaire d'un lieu où on vous annonce tous les endroits où vont se passer les choses. Chacun a avec lui ses domestiques. Elkint, dans le cinquième endroit, les disciples Christ, les Trace Marie, Sey et Elsis, et les trois Maries qui soient assises à côté. Et on se retrouvera ensuite avec Galilée au milieu de la place, Emmaüs, évidemment, ou Jésus-Christ, etc. Et à partir du moment où on a fait le tour, on peut commencer à raconter la pièce. C'est-à-dire que là, vous avez une version un petit peu ancienne. Le jugement, la vengeance de notre Seigneur, c'est un mystère qui date du début du XVe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le prologue. Le prologue qui nous décrit les endroits, et pourtant des endroits qu'on connaît bien. Si vous regardez, en 1474, à Rouen, on dit « Écoutez, vous allez vous débrouiller, les établis, on vous les a présentés, puis il y a une étiquette au-dessus. » Ce qui revient à dire qu'on considère qu'à la fin du XVe siècle, la population rouennaise, globalement, sait lire. C'est une petite bascule dont il faut prendre compte parce que les choses changent. Alors, Sainte Barbe. Sainte Barbe, c'est à la fin du XVe siècle, à la fin du Moyen-Âge, une figure extrêmement importante. D'abord parce que c'est une vierge et martyre et que ça, tout le monde aime. Que c'est en plus une vierge qui est patronne des artificiers. Il se trouve que le père qui, de dépit, finit par vouloir décapiter Sainte Barbe, levant son cimetière pour la décapiter, se retrouve foudroyé par un éclair qui passait par là, ce qui prouve bien qu'il ne faut pas lever son épée quand on veut décapiter des saintes, et que la foudre divine peut être justicière. Du coup, Sainte Barbe va être vraiment la patronne des artificiers, la patronne des premières armes à feu, celle qui va à la fois protéger les assaillants et les assaillis, au point, je vous le rappelle, que l'endroit dans un bateau où se conservaient les explosifs et les munitions, vous n'avez qu'à renvoyer à Tintin et le secret de la licorne, l'endroit s'appelle bien la Sainte Barbe. Donc c'est quelqu'un d'important, patronne des pompiers, qui vont la célébrer bientôt, et patronne extrêmement vénérée à la fin du Moyen-Âge. Alors, Sainte Barbe, là vous avez une jolie petite illustration, mais on a la chance de conserver 2 miracles de Sainte Barbe, dont un, le miracle en 3 journées, le mystère de l'enceinte en 3 journées, qui est directement en ligne sur les sites. Il est inédit partout ailleurs dans le monde, c'est nous qui l'avons, profitez-en. Mario Lantin, qui m'avait passé ce texte, prépare depuis quelques années l'édition de la Sainte Barbe en 5 journées, la version complète, que vous pourrez lire bientôt. Mais ici, vous avez un très beau prologue qui va fonctionner d'une part avec une belle citation latine. Je commence comme un sermon. A conspectu astantium adductor factus est misti. Michi, Dieu m'est venu en aide à l'aspect de ces gens néfastes. Et tu as libéré mon corps de la perdition et tu m'as arraché de ce temps inique. Très chers gens, veuillez entendre les paroles que j'ai si dites. Chacun de vous le doit l'apprendre, partout, etc. Et vous avez d'une part l'annonce du sermon. D'autre part, l'annonce qu'il s'agit d'un texte sérieux. Et soyez sûrs qu'ils sont écrits au livre de grande sapience. Plusieurs docteurs les ont prédites, etc. Et après ça, on embraye sur un passage du livre des sagesses, Sapientia vincit malicia, etc. Ces clercs vous veulent démontrer un mystère bon et propice, etc. On a le résumé. Une vierge de grand renom, moult remplie de sapience, de barbare portant le nom, vainquit malice par science. Barbara, c'est aussi la femme qui a appris des choses, la femme lettrée. C'est le moment où les femmes commencent à avoir plus d'éducation. Et c'est aussi, à ce titre-là, une des figures intéressantes de la Renaissance. Et après ça, vous allez avoir « Montrez, vous veuillez, tous nos estages ». Et la même description. Alors, ce mystère de Sainte-Barbe, il est un peu embêtant parce qu'on a un texte, mais on ne sait pas d'où il sort. Et on n'a pas vraiment de... On n'avait pas vraiment de traces de leur présentation. Sauf qu'on sait que c'est début 16e, tout simplement parce que le manuscrit nous donne une femme qui arrive. Alors, attendez, je vous avais dit, le mystère, c'est sérieux, c'est tragique. Et voici que ici, la folle femme se présente et commence en chantant la chanson suivante, ou autre, avec geste d'amour dissolus et lubriques. Alors, les gestes d'amour dissolus et lubriques, il est certain que tout d'un coup, ça va attirer l'attention, le regard, et qui sait, peut-être la concupiscence de tout le public mâle. Et voici qu'une femme arrive en prenant des postures lubriques au début d'une pièce de théâtre, au début d'un mystère religieux. On est donc bien dans quelque chose qui accroche le public. Et alors là où c'est très drôle, c'est que la folle femme chante « Tant que vivrai, en âge florissant ». C'est un des tubes de la Renaissance. Et si vous regardez, ce n'est pas un texte d'une violence torride. Hein. On a connu des chansons plus indécentes, plus lubriques et incitant à la fornication. Je servirai amour, le Dieu puissant, en fait dit, en chanson et accord, etc. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est une gesticulation qui attire le regard, qui focalise l'attention, et la chanson à la mode, qui n'est pas du tout la chanson spéciale du mystère de Sainte-Barbe, mais qui est vraiment le tube du hit-parade, la chanson que tout le monde connaît, et qui là aussi fonctionne clairement comme une accroche. Et ensuite, on arrive, fille de liesse, fille de tristesse, vie de liesse, etc. Si vous tapez sur Internet « Tant que vivrez en âge florissant », vous pourrez trouver, y compris sur Deezer ou sur autre chose, un certain nombre de versions. C'est une chanson, encore aujourd'hui, très présente. Là où les choses sont intéressantes, c'est que dans un petit village, une petite ville de la Sarthe, un gros bourg, allez, Saint-Martin-de-Conné, vous avez une très jolie petite église où sur le bas-côté gauche, vous avez une petite chapelle qui est assez intéressante parce que vous avez une voûte de bois peinte, et peinte très clairement d'après les costumes début 16e. Et qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit l'habit de Sainte-Barbe, mais pas une statue de Sainte-Barbe, comme dans la plupart des endroits, mais toute une série. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Voici Sainte-Barbe qui est en train d'annoncer et d'expliquer. Vous connaissez la position des gestes. Voici Sainte-Barbe au tribunal. Alors, je vous sous-titre quand même, parce que vous allez dire, ouais, les photos, elles ne sont pas terribles. Je sais, c'est moi qui les ai faites. Mais ce que je peux vous dire, c'est que se retrouver dans une petite chapelle en arc de cercle, puisque les planches peintes vont de à peu près 1,60 m environ jusqu'à un plafond de 2,20 m en bois, comme ça, en arc de cercle. Vous vous mettez en face, vous photographiez votre propre flash. Vous vous mettez de côté, vous avez toujours des images déformées. Et vous n'êtes pas assez loin pour avoir un grand angle suffisant. Donc, un jour, quand j'aurai le matériel de professionnel, on pourra faire une série de photos. Mais pour le moment, on fait avec ce qu'on a. Hein, vous êtes prié de vous en satisfaire. Donc, ici, Barbe est au tribunal. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous voyez tout autour d'elle une série de personnes avec des gesticulations particulières. Barbe est conduite à ses bourreaux. Vous voyez mieux ce que je vous disais sur les arcs de cercle. Et on a ici une série de costumes très beaux, très traditionnels. Et voilà, enfin, Barbe suppliciée. Alors, Barbe suppliciée, il y a deux choses qui m'intéressent là-dedans. c'est « Mon Dieu, une jeune fille seins nus ». Et alors les garçons qui tout à l'heure commençaient à se dire « ça y est, les postures lubriques et torrides, ça m'intéresse », se disent peut-être « oh, barbe seins nus, ça va être intéressant ». Les rôles de jeunes filles étaient tenus par des jeunes gens. Et je pense qu'on devait leur mettre une sorte de maillot chair qui permettait de rajouter des avantages où il devait y en avoir. Donc ça n'est pas aussi torride que ça, mais c'est pitoyable puisque barbe est frappée. La deuxième chose qui m'intéresse sur ce passage-là, c'est la tenue des bourreaux. Nous avons deux bourreaux, un en caleçon, avec un décor de vêtements type Vasarely. Ça vous dit, bon, c'était très à la mode dans les années 70, ces espèces de carreaux noirs et blancs un peu irréguliers. Et vous pouvez remarquer qu'en guise de caleçon, il a une sorte de braguette à pont. Le personnage avec un caleçon vert a quelque chose de très moulant et une braguette très avantageuse. Alors, juste une remarque comme ça, on se dit, tiens, ils sont vêtus bizarrement. Et en fait, vous pourrez remarquer que très souvent, les bourreaux sont un peu déshabillés, un peu dépoitraillés, et ont ou des fesses ou des sexes surdimensionnés. Quand je dis les sexes, entendons des braguettes rembourrées, ce qui était la règle à l'époque, mais quand même, on insiste dessus. Et en fait, ça m'a toujours paru un peu bizarre jusqu'au moment où j'ai compris que c'est absolument indispensable pour deux raisons. La première, c'est que quand on veut frapper, représenter un saint qui est frappé, on le représente de face et on représente ses bourreaux de dos, assez logiquement. Donc on a, je dirais, un gros plan sur les fesses des bourreaux. Mais davantage, ces fesses qui sont rebondies, surtout c'est la période des costumes à rayures ou à carreaux, et quand on ne sait pas encore trop maîtriser la perspective, vous voyez qu'il suffit de déformer des rayures ou de déformer des carreaux pour donner l'impression du volume. C'est facile et ça marche bien. Mais souligner ces éléments-là, souligner les fesses des bourreaux, ça revient en gros à les remettre du côté du bas corporel. C'est des individus qui ne s'occupent que du corps, qui ont un gros corps épais, sans finesse, et qui sont justement en train de s'acharner à martyriser l'enveloppe corporelle d'une sainte ou d'un saint qui vaut infiniment mieux qu'eux. Donc, si vous voulez, dans cette dynamique-là, la fesse du bourreau, les braguettes surdimensionnées du bourreau, ont un rôle dans la mesure où elles le rappellent qu'il y a un côté bête et il y a un côté ange, il y a un côté bas corporel, il y a une sorte de trivialité sur laquelle on insiste d'autant plus que ça va permettre d'exalter la noblesse, le côté spirituel des autres personnages. Alors, voici Barbe livrée à une prostituée qu'elle arrive à convertir, puisqu'il s'agit à toute force de perdre le corps de Barbe, et à la fin, cette image tout à fait intéressante d'un ange qui emporte l'arme des martyrs. Vous regardez, on a à peu près la même chose que ce qu'on avait dans le miracle de Théophile, vous vous souvenez du vitrail, où l'ange s'envole avec une sorte de petit panier en tissu dans lequel on récupère l'âme des défunts. Donc tous ces éléments-là nous montrent qu'il y a eu un mystère de Sainte Barbe, très probablement, il y a une histoire, et les archives nous ont appris, attendez, plutôt que de vous perdre, je reviens en arrière, les archives nous ont appris qu'il y a eu justement à Angers, pas très loin de Saint-Martin-de-Connay, non pardon, à Angers, à Laval, une série de représentations de Sainte-Barbe dans les années 1514-1520. Ce qui revient à dire que notre cycle iconographique de Sainte-Barbe, on en a une fois de plus une preuve ou un indice, il est lié peut-être à la vie de Sainte-Barbe, mais bien davantage à la représentation de la vie de Sainte-Barbe. Maintenant, reprenons ces deux éléments que vous avez pu repérer la semaine dernière dans la miniature de Fouquet. Vous aviez un maître du jeu que je vous avais montré, et vous aviez un rusticus qui montrait ses fesses. Regardez ce qu'on a dans Saint-Martin-de-Connay, cette fois-ci dans l'église elle-même. Vous avez des fresques, en plus de l'histoire de Sainte-Barbe, des fresques qui datent de la fin du XVe siècle, où vous avez un personnage qui ressemble tout à fait ou à un chef d'orchestre, un meneur de jeu, ou à un ordonnateur des supplices. Et vous avez, sur la droite, un personnage qui arrive avec un peigne de fer. C'est un des supplices qu'on fait subir à Saint-Laurent à un moment on le gratte avec un peigne de fer, vous voyez, ça doit être horrible, et qui se retrouve muni des fesses joufflues dont on avait parlé précédemment. Donc, là encore, dans ces représentations de Saint-Martin de Connée, on peut penser que tout le cycle peut renvoyer à la tradition d'un cycle de représentation ayant eu lieu à Laval, c'est-à-dire à 40-50 km de là, pas très loin, somme toute. Alors, après vous avoir fait cette espèce d'itinéraire, je me suis dit, tiens, il y a quand même des choses que j'aurais dû leur dire, aux pauvres petits, là, parce que on ne sait pas quand, on ne sait pas où, on ne sait pas qui. Et si je vous ai dit des choses, il était peut-être temps à un moment un petit peu de resserrer les boulons de ce côté-là. Alors, quand ? Le mot de mystère en tant que tel apparaît au début du XVe siècle. Quand on a les appellations mystère de la passion, passion du Palatinus, etc. sur les textes du XIVe siècle, c'est un petit peu par excès, parce qu'on voit qu'on est dans la même dynamique. Mais le mot apparaît donc à Paris, assez vite. Excusez-moi, pourquoi j'ai ça qui... J'ai l'impression que j'ai fait une grosse bourde, mais ce n'est pas trop grave. Alors, on oublie le camp pour le moment, j'y reviendrai. Et excusez-moi, je reviens sur mes histoires de fesses. Le premier personnage comique de la Passion, il est dans la Passion de Semur. Excusez-moi de la bousculade. Il est dans la Passion de Semur, où on présente le personnage de Cannes, ou de Canaan, qui est le deuxième fils de Noé. Vous savez que Noé a trois fils, Sem, Cam et Japhet, qui l'emmènent avec chacun son épouse dans l'arche de Noé. Et ce sont ces trois personnages-là, ces trois couples, qui seront chargés de repeupler la terre après le déluge. Il se trouve que Noé, après la décrue du déluge, plante la vigne. C'est une de ses principales activités. Et certaines encyclopédies médiévales nous précisent qu'il plante un plant de vigne le jour, ce qui permettra d'avoir du raisin rouge. Et il plante la deuxième bouture qu'il avait conservée la nuit, ce qui permet d'avoir du raisin blanc. L'auteur de l'encyclopédie précise, oui, ça marchait pour Noé, c'est pas la peine d'essayer maintenant, ça marche plus. En tout cas, Noé plante la vigne, découvre le vin, et dans la foulée, découvre la cuite. Et voici que Noé se retrouve ivre-mort, exilant malgré lui ses humbles génitoires. Et voilà que ses trois enfants le découvrent comme ça, dont Canaan, ce jeune homme sans grande finesse, qui aide son père à un moment, mais qui, en le voyant ivre, dit « Aïe, 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 quelle grande laidure ! Par celui Dieu qui fit les nus, mon père dort les couilles nues, venez me ouïr, quel rigolage !» Bon, c'est pas très subtil, on est d'accord. Les frères de Cannes, c'est-à-dire Sem et Japhet, vont avoir le geste vertueux qu'il faut avoir dans ces cas-là, avancer en marche arrière en tenant une couverture pour couvrir la nature, la nudité de leur père. Mais une fois dessoulé, Noé se venge et maudit son fils. Et Canaan devient à ce moment-là transformé d'homme libre en esclave, et il devient le rusticus. Et dit, bon, bah, puisque c'est ma mission, je dirai des choses stupides, je serai le paysan, celui qui est toujours au ras du pâquerette, qui monte ses fesses et qui trouve que c'est du rigolage. Voilà comment ce personnage, dès les premières passions, dès les récits du déluge, s'intègre dans le récit et devient une sorte de figure nécessaire. En train de montrer ses fesses. Alors, voilà, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un télescopage. Le camp que vous avez sur cette image aurait dû être sur l'image suivante. Bon, alors 1402, début 15e, on s'y retrouve. Charles VI autorise la représentation de mystères. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces cas-là, les mystères renvoient à plusieurs choses. C'est toute représentation. Représentation, ça peut être scène muette, ça peut être même une tapisserie, même une tenture, même des sculptures qui sont présentées, des personnages immobiles qui font une pantomime avec éventuellement un narrateur qui montre, ou tout simplement ce qu'on entend, nous, par pièce de théâtre. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que vous avez tout ce qui est du registre de la représentation qui fonctionne comme un mystère. Et ça, du début du 15e jusqu'au début, voire milieu du 16e, les villes vont rivaliser pour faire des représentations de mystères, de passions de plus en plus spectaculaires, de plus en plus belles. Le texte circule, les acteurs circulent, les maîtres des secrets, c'est-à-dire des effets spéciaux, circulent, mais on est chaque fois dans un système d'émulation. Milieu 16e, qu'est-ce que vous voulez ? C'est la Renaissance. C'est les Parisiens, c'est la Pléiade, c'est aussi toute une série de choses avec la montée du protestantisme qui se méfie de la foi populaire et qui veut toujours une foi austère et savante. Le mystère commence à être mal vu. Mal vu à Paris parce que, qu'est-ce que vous voulez, c'est ringard. Et qu'à la limite, les gens qui aiment assister à des mystères sont vraiment trop provinces et trop ridicules. Vous savez, ça fait partie de ces espèces d'oukases d'intellectuels parisiens qui expliquent, enfin, ça ne se fait plus. On ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, quelque chose est passé de mode et devient ridicule comme ça, organiquement. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais qui vont amener, en 1548, il est important quand même de signaler, le Parlement de Paris interdit la représentation de mystère. Sous prétexte que c'est ridicule ou sous prétexte que les représentations de mystère, même si elles ont certaines naïvetés, vont pouvoir prêter le flanc à des sarcasmes émanant ou des intellectuels ou des protestants. Donc les gens qui sont contre les représentations de piété populaire seraient tellement heureux de les tourner en ridicule qu'il vaut mieux les interdire. Et on va pouvoir jouer des mystères profanes, honnêtes et licites, c'est-à-dire que dès qu'il n'est pas question de religion, vous faites ce que vous voulez. 17 novembre 1548. Alors, tous les manuels d'histoire vous disent, oui, à ce moment-là, il n'y a plus de mystère. Il n'y a plus de mystère, sauf que jusqu'au milieu du XVIIe siècle, début du XVIIe siècle, on en représentera, on en jouera, parce que la province ne sait pas forcément ce qui se fait à Paris, et la province, elle continue à aimer bien les choses. Si j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps un mystère de 1580 à Dieppe, mystère de l'Assomption Notre-Dame, où on a tout ce qu'il faut et tous les personnages de la ville qui participent. Vous arrivez à lire sans difficulté, j'imagine, l'an de grâce 1580, le jour de l'Assomption de la glorieuse Mère Jevarie, ses présentes ordonnances ont été accordées et signées par les apôtres prophètes et après hommes, lesquels ont récité et montré à messieurs les dites confréries qui ont été mis aucun confrère. Bon, on est en train de resigner, de renouveler les statuts de la confrérie à l'issue du mystère. Donc, officiellement, les mystères terminent en 1550. Ça, c'est pour faire plaisir à l'histoire littéraire vue par les Parisiens. Pratiquement, ça dure jusqu'au début 17e, voire au-delà. Regardez la tradition des mystères bretons, ils durent jusqu'en 1650-1680. On n'est pas obligé d'en déduire que les Bretons étaient des attardés. Ils étaient peut-être loin de la capitale, ça c'est indiscutable, mais ils ne l'étaient peut-être pas plus attardés que d'autres. Alors, les textes conservés, j'ai repris ça du site de Jess Hulbert, qui se retrouve en ligne. Si vous allez sur le site du CETM, vous avez une série de liens. Les pages ont un petit peu vieilli, mais il reste des choses utiles. Et vous avez un lien vers le site de Jess Hulbert et la bibliographie qu'avait faite Graham Reynolds, qui est mort il y a quelques années, mais qui était le meilleur spécialiste mondial des mystères. Alors, il avait fait un petit inventaire des textes mystérieux, des textes de mystère que l'on connaît 12, 13e, 14e siècle. Voilà, il y en a une série. Et après ça, il embrayait sur les mystères manuscrits du 15e et début 16e siècle. Alors, je vous donne la liste. Je raccourcis 16 mystères de la Passion, 3 de la Résurrection, 23 vies de saints et de saintes, Sainte Agathe à Saint-Vincent, plus un siège d'Orléans, mystère des pèlerins, des trois rois, on aime beaucoup les trois rois, quelques mystères différents de la vengeance Notre Seigneur, c'est celui dont je vous parlais. 148 mystères, manuscrits. 148 mystères manuscrits, sachant que c'est vrai qu'il y en a des courts, mais il y en a des longs. La Passion de notre Seigneur, c'est 28 000 vers. Ça se fait en 5 à 7 journées. Valenciennes, c'est pareil. Donc, c'est par centaines de milliers de vers. C'est peut-être plus d'un million de vers qu'il faut voir dans l'histoire. Et vous avez des mystères imprimés. C'est aussi ça, peut-être, qui mériterait d'être réfléchi. Vous avez des Actes des Apôtres, une Apocalypse, une Assomption de la Vierge, un chevalier qui donna sa femme au diable, une conception, une description, Griselidis qui se balade par là, l'incarnation, les frères pêcheurs, etc. Un stock de passions, des saints, Saint Christophe, Saint Fiacre, Saint Hostie, Marie-Madeleine, Saint Martin, Saint Nicolas, Suzanne, Venise, Vengeance, Vieil Testament. Donc, 36 mystères imprimés, dont certains sont les mêmes que les mystères manuscrits, 178 mystères différents. Sur 150 ans de production littéraire, sachant qu'il y a évidemment des textes qui ont disparu. Donc, par rapport à ce qu'on sait du mystère des textes théâtraux du XIIe-XIIIe siècle, où on a deux, trois machins qui restent et où on n'a pas d'attestation de représentation théâtrale en dehors de ces textes-là, vous voyez que 178 mystères, plus énormément de pièces d'archives qui nous indiquent que pour l'entrée royale de Monseigneur machin, on a représenté telle ou telle pièce, tel ou tel mystère. On sait que c'est des centaines, pas simplement 178, mais des centaines de pièces de théâtre qui ont été représentées en 150 ans, peut-être 200, 300. Certaines personnes ont fait le travail. Catel Lavéant a fait ça pour les provinces du Nord. J'ai un étudiant qui fait ça pour les provinces du Grand Ouest, Bretagne, Vendée, etc. On a des dizaines et des dizaines d'attestations dans les pièces d'archives de représentation théâtrale. Donc, on peut dire que s'il y a un siècle théâtral, c'est des années 1430 à 1530, avec énormément de représentations, une émulation urbaine extrêmement active, et ça devient à ce moment-là un art. Mais ce qui me paraît encore plus intéressant, et si vous voulez, c'est l'élément sur lequel je voudrais essayer d'avancer un petit peu maintenant, c'est de dire que, attention, notre mystère comme jeu théâtral est en train de devenir aussi un objet textuel. Et ça, c'est l'élément nouveau. C'est l'élément nouveau, ça veut dire qu'on est en train de conserver le théâtre pour une autre finalité que celle qui était la sienne au début. Ce qui avait été esquissé dans le fameux manuscrit d'Arras où on a la feuillée et le Saint-Nicolas devient ici une sorte de norme. Bien sûr, on continue à avoir des rôles d'acteurs. Le rôle d'acteur, ça c'est Jess Albert et Graham Reynolds en parlent aussi, c'est une façon très particulière de conserver les manuscrits de pièces de théâtre. Je ne sais pas, ça vous est peut-être arrivé quand vous étiez petit d'essayer d'imaginer une pièce de théâtre avec vos copains. Et puis, bon, en un temps où on n'a pas forcément accès à une photocopie, on recopie le texte de sa réplique. Et puis on se dit, ouais, je la place quand ? Alors on prend les quelques mots de la réplique qui précède et on prend les quelques mots de la réplique qui suit. Et on s'imagine, quand on fait une lecture à l'italienne, c'est-à-dire chacun assis à sa place et déjà essayant de filer le texte, de le caler, de mettre le ton, de chercher un petit peu des intentions et des intonations, on se dit, bah, je vais raccrocher sur les derniers mots de la réplique. Cette façon que vous avez pu avoir de préparer une pièce de théâtre, c'est exactement celle qui était en usage au XVe siècle. Un rôle d'acteur, c'est un petit rouleau, les trois quarts du temps, dans lequel se retrouvent inscrites à la suite toutes les répliques d'un personnage au fur et à mesure, avec, je dirais, les deux mots de raccroche à la réplique précédente. Ce mot de « rôle » renvoie justement au fait que c'était un rouleau, un rôle qui était enroulé. De savoir son rôle, c'était savoir le texte qu'on avait appris sur son rouleau. Alors, on a des textes disparates, et puis on commence à avoir des manuscrits comme ça, comme La Passion de Gréban, dont vous voyez que ce n'est plus un rôle d'acteur, c'est déjà un beau manuscrit à lire. Avec sur la page de gauche une assez jolie enluminure, je n'ai pas le modèle couleur, vous m'excuserez, mais qui nous montre Dieu en train de faire la création, ce qui est assez joli. Et puis un large texte sur la droite qui commence par un blason. On est dans un manuscrit un petit peu de luxe. Ça se voit entre autres avec les vignettes que vous avez là. Mais pas tout à fait de luxe, parce que ça serait un manuscrit vraiment de luxe, il y aurait des vignettes partout. Et si on prend un autre manuscrit, plusieurs manuscrits, alors c'est pas le 881, c'est le 815, pardon. Vous allez avoir le texte avec une série de petites enluminures. Celui-là me paraît plus intéressant. Après le grand prologue de la Passion de Gréban, vous avez un petit prologue avant que Dieu le parle, avant que Dieu le Père parle. Ouvrez vos yeux et regardez des votre gens qui attendaient à ouïr choses salutaires. Veillez-vous pour vos salutaires par une amoureuse silence. S'y verrez en brève sentence le fait de la création et la noble plasmation du ciel, terre, anges et humains. En bref, car ceci c'est d'humain, et comme incident littéral à notre propos principal. Notre spéciale matière est de traiter le haut mystère de Jésus et de sa passion sans prendre autre occupation. Mais la création du monde est un mystère en quoi se fonde tout ce qui dépend en après. Si la montrons par nos exprès, car la matière du produire ne se peut montrer, ne déduire par effet, sinon seulement grossement et figurablement, et selon qu'il nous est possible, en verrez la chose sensible. Je ne sais pas si les choses vous sont claires, mais bon, ouvrez vos yeux, regardez, écoutez. Alors, ce qui est bien, c'est que ouvrez vos yeux, regardez, écoutez, ça fonctionne aussi bien pour un manuscrit que pour un spectacle. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer l'histoire de la Passion et de la Résurrection. Mais, pour commencer, il va falloir commencer par la création, parce que c'est là que tout se joue. C'est au moment de la création qu'on va avoir, justement, l'orgueil de Lucifer, la chute et la création du mal qui va constamment enchaîner de l'un à l'autre. Et une fois qu'on a dit, bah oui, il faut présenter la création, on va vous la montrer, mais faut pas nous en vouloir. Ce sera une représentation, une figure d'eux. Je veux dire, comment aujourd'hui vous pourriez faire la création? On arrive à faire le Big Bang, oui, c'est vrai, mais déjà, c'est pas très convaincant. Et au XVe siècle, on ne peut pas en demander tant. Donc, tout ça, ça va être métaphorique. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est de vous montrer que vous avez une série de petites enluminures qui sont mises juste à côté, comme par exemple celle-là, celle du clerc d'Arnoul Gréban, qui était l'auteur du mystère, mais qui était aussi docteur en théologie, ce n'était pas un abruti, qui justement est là et qui va se situer dès l'ouverture du texte, un peu sur la touche, pour le donner à voir, pour le commenter, etc. Et si vous reprenez l'image là, j'aurais dû en faire un agrandissement. Vous avez Dieu le Père, qui habillé avec justement une tiare un peu comme un pape, qui va lancer le geste créateur. Donc celui qui dit « ouvrez vos yeux et vos oreilles », c'est bien celui qu'on appelle le fatiste ou le facteur, celui qui a fabriqué le spectacle qui vous est donné à voir, celui qui va en être d'une certaine façon le chef d'orchestre. Autre exemple, et il me semble plus intéressant encore. Celui-là, c'est la Passion de Jean Michel, un manuscrit imprimé de la réserve, où on a le prologue capital au mystère de la Passion de notre Seigneur. Malgré les apparences, enfin je ne sais pas c'est ce qui vous apparaît après tout, ceci n'est pas un manuscrit. Ceci est un livre imprimé, sur lequel on a rajouté des enluminures. Luxueuses. Ça, vous ne pouvez pas dire le contraire, et je ne me permettrai pas de le dire. Mais ce qui me paraît très important sur ce jeu des enluminures, c'est de vous dire qu'attention, le mystère prend un autre statut. S'il existe en tant que texte imprimé, c'est-à-dire reprographié en quantité, quelques centaines d'exemplaires, c'est qu'il y a un public pour ça. Un manuscrit, c'est toujours un objet unique. Ça ça prend du temps à recopier, ça coûte cher, c'est quelqu'un qui le commande, pour lequel il y a des délais de livraison. Un imprimé, c'est quelque chose qui se fait à l'avance et qui ne coûte pas cher. On a eu des inventaires après décès de libraires imprimeurs parisiens vers les années 1520-1540. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un livre relié, ça prend de la place, ça coûte assez cher à faire. Donc, une fois qu'on a imprimé un livre, en général, on le garde en feuilles, des grandes feuilles, je dirais, format A2 ou A1, qui, selon les besoins, avec 2-3 exemplaires d'avance, si vous voulez, vont être pliées, reliées, cousues pour être vendues. Lorsque Treprel, libraire-imprimeur, meurt, on fait l'inventaire des bouquins qu'il a en stock. Ça permet de savoir combien de livres il avait imprimés, à combien d'exemplaires il tirait. Il en reste en général au maximum 100, 150 exemplaires. On peut supposer qu'il en a vendu au moins 50. Donc, je vous dis, ça tourne à des tirages à 200 en moyenne. Et ce qui est évalué, c'est le prix de vente, sur lequel on fait une forte ristourne, parce que justement, ce qui compte, c'est non pas le prix de vente du bouquin, mais le prix de vente du papier brut. Et on apprend à ce moment-là qu'un mystère de la passion, qu'un mystère de l'hostie, etc., ça ne coûte pas très cher. Ça coûte une journée de travailleur manuel. Ça coûte une journée de maçon. Bon, c'est pas indifférent. Mais avec un SMIC aujourd'hui, quelque chose que vous payez, 30, 40 euros, ça ne se fait pas tous les jours, mais ça n'est pas scandaleux. C'est accessible. Ça veut dire que le mystère imprimé est un texte que tout le monde qui sait lire peut s'acheter. C'est donc en train de devenir une littérature populaire. Alors, même si, on est d'accord, il y a des manuscrits de luxe, il y a des éditions imprimées qui sont aussi richement décorées que des manuscrits. Vous avez toujours des gens qui veulent avoir des tirages de tête, des éditions de bibliophiles, etc. C'est intéressant parce que ceux-là, ils sont conservés, ils nous montrent de belles images. Mais ça montre aussi que le public connaît, pratique énormément ce genre de choses et qu'il y a donc un lectorat du mystère. Alors, question, qui est-il ? Je pense qu'on peut associer la lecture du mystère comme pratique urbaine à la lecture du livre d'heures. Je m'explique. Comme vous le voyez, beaucoup de monde, gros budget, on ne fait pas des mystères dans les villages. On fera des farces, mais on ne fait pas de mystères. Ce public urbain est un public qui est instruit et qui, dès le départ, a pris l'habitude d'une piété privée. On va, certes, à l'église, mais on a son livre d'heures. Son livre d'heures qui peut être quelque chose d'assez simple, qui peut être beaucoup plus luxueux. Tout le monde a son livre d'heures, des gros, des petits. Vous avez les grandes heures du duc de Berry, qui sont à peu près grandes comme ça. Vous avez des heures plus petites qu'une boîte d'allumettes. Tout existe, on joue avec, mais ça permet surtout de prier, d'avoir la liturgie des défunts, la liturgie de la Vierge, la liturgie ou les prières aux saints qui nous sont particulièrement chers, en général Saint-Sébastien, Sainte-Barbe, Marie-Madeleine, quelques-uns comme ça. Les gens ont pris l'habitude de prier pour eux et de méditer sur l'écriture ou méditer sur la religion. Vous voyez que lire un mystère de l'incarnation, un mystère de la passion, c'est une façon aussi de méditer sur la religion. Ce public-là, il est effectivement public urbain, public religieux, public ayant acquis une autonomie dans les pratiques de dévotion. C'est celui des livres d'heures qui va acheter assez probablement les mystères. Mais ce n'est pas seulement ça. Et vous aurez quelques indications assez intéressantes. Si on reprend cette fin de Vérard, fin du mystère de la passion, notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Joué à Paris dernièrement 7 ans, 1480 et 10, imprimé pour Antoine Vérard, libraire demeurant à l'image Saint-Jean l'évangéliste sur le pont Notre-Dame et au palais au premier pilier devant la chapelle où on chante la messe de Messeigneur les présidents. Bon, ça c'est Vérard, celui qui fait le best-seller. Hein. Quand un bouquin est publié par Vérard, c'est que tout le monde va l'acheter. Joué à Paris dernièrement. Ça veut dire que le public des mystères, après l'avoir vu, a également envie d'avoir le texte. Regardez la démarche que vous pratiquez plus ou moins régulièrement. Ouais, machin, j'ai vu le film, j'ai pas encore lu le bouquin. Et le « j'ai pas encore lu le bouquin », qui est une version pudique de dire « j'ai pas lu le bouquin du tout », laisse espérer que, après avoir vu le film, pour certains, vous aurez envie de lire le livre. Si le film est intéressant, vous voulez en garder la trace. Si vous avez apprécié le spectacle, achetez le texte. Et c'est cette démarche-là qui fait que la pièce de théâtre va être aussi la pièce d'un public. Et c'est quelque chose qui me paraît vraiment essentiel à souligner. Alors, je crois que... là, j'avais aussi notre incarnation et nativité. Si vous voulez, il faut penser donc qu'on a, au cours du XVIe siècle, une démarche assez intéressante qui fait que le public devient lecteur. C'est-à-dire que tout ce contre ou pourquoi je me suis battu depuis le début de l'année, à savoir le théâtre est un objet spectaculaire, le théâtre doit être vu, etc. À partir du milieu du XVIe siècle, le théâtre il peut commencer à être lu. Mais, et je crois que c'est très important, chaque fois qu'il est lu, il est associé aux images que l'on en a conservées. Les manuscrits, un peu luxueux, nous gardent des enluminures de telle ou telle belle séquence. Le mystère de la destruction de Troie, la Grande, est un manuscrit, une suite de manuscrits avec un programme iconographique fabuleux. Je vous avais parlé un petit peu du mystère de Griseldis. On a une version imprimée, mais on a une version manuscrite avec des images extraordinaires. On n'aura pas forcément, surtout les mystères imprimés, des images. Mais comme ça a été joué dernièrement, ce que vous voyez quand vous lisez le texte, c'est ce que vous avez vu il y a quelque temps, ce qui vous a marqué, ce qui a marqué votre imaginaire. Et probablement aussi ce qui est représenté sur les vitraux ou sur les fresques des églises où vous allez le dimanche. Donc vous voyez qu'on a constamment une sorte de réactivation de l'image par le texte, du texte par l'image, autour d'objets mémoriels où il y a malgré tout une capacité à se représenter. Ce vers quoi j'aimerais arriver à vous inviter comme lecteur, c'est bien sûr, vous n'avez pas forcément toutes ces images-là, mais d'essayer d'avoir des images en tête quand vous lisez du théâtre. Un théâtre où on lit simplement des répliques en noir et blanc sur du papier, malgré tout, ce n'est pas du théâtre. Et même au début du XVIe siècle, quand on est en train de basculer sur l'imprimerie, on propose des images, on a en tête des images. Alors voilà, ça c'est l'expression de l'incarnativité de nos seigneurs dont je vous parlais, celle de Rouen. Mystère de Griseldis, où vous avez encore... une représentation du mariage de Griseldis, mais dont vous voyez qu'en plus elle est complètement artificielle, puisqu'elle reprend une illustration d'un mariage royal. Griseldis, c'est la fille du comte de Saluces, pas une princesse. Peu importe, on met une image. Et vous allez avoir dans l'histoire de Griseldis un certain nombre de personnages. Bon, après ça, on va s'arrêter là où peut-être je commence sur la farce malgré tout. Je vais vous faire deux, trois trucs de transition. Je ne vous montrerai rien de la farce. Ça vous apprendra. Mais je vais... Vous avez annoncé de toute façon qu'on passerait de l'un à l'autre dans ce cours-là. J'aimerais justement vous donner deux, trois indices avant d'en parler plus à fond la semaine prochaine. On a expliqué que le mystère était une activité urbaine, riche, organisée par les confréries en général aidé par la municipalité. C'est un gros investissement. C'est comme organiser une compétition sportive aujourd'hui. Vous avez à la fois la ville qui verse, la confédération sportive qui verse, les spectateurs qui versent, et on arrive à peu près à équilibrer ses comptes. La farce, c'est un truc à petit budget. Ça se joue entre 3 et 6 personnages. Et en général, on arrive à se débrouiller à 3 ou 4 acteurs. C'est-à-dire que si on a 6 personnages, on a rarement 6 personnages en même temps. Et on peut supposer assez souvent qu'un acteur peut tenir plusieurs rôles. La farce, c'est pas cher. C'est sans décor, ou presque. Ça peut se jouer, je dirais, sur un plateau de tracteur, aujourd'hui, sur une estrade de charrette, tout simplement, sur 3 tables ou 4 tables mises côte à côte dans une cour d'auberge, ça se fait assez facilement. La farce va donc être une activité pour une grande part non officielle. Il y aura des farces en ville, bien sûr, mais il y en aura aussi dans les campagnes. Et ça va entraîner plusieurs choses. D'abord, une moindre traçabilité de la farce. Dire quand vous décidez de faire un spectacle entre copains, éventuellement à l'arrière-salle d'un bistrot, vous faites, allez, parce que vous êtes les rois de la photocopie et du bricolage, vous arrivez à faire 10 affiches que vous mettez dans un coin et arrivent vos copains et vous êtes contents. Si vous faites venir Candeloro au Stade de France, il est évident qu'il faut un peu plus de matériaux et on aura plus de traces des grands événements que des petits événements. Deuxième chose, c'est l'importance d'une troupe d'amateurs. On peut monter des farces assez facilement. Même si le personnel des grands mystères est un personnel d'amateurs, il y aura des acteurs professionnels, il y aura des metteurs en scène exigeants, on est dans une autre dimension. Et la farce, n'étant pas quelque chose de religieux, a priori, peut se retrouver non contrôlée et commencer beaucoup plus tôt qu'on ne l'imagine. Alors ça, c'est l'hypothèse de Michel Rousse et qui me paraît très convaincante. Je vous l'ai déjà dit, je crois, un petit peu il y a quelques semaines. Il est bien probable qu'ont existé des compagnies jouant des farces, des troupes de jongleurs, dès la fin du XIIIe siècle. Troupes de jongleurs décimées par la guerre de Cent Ans, les épidémies, la grande peste, etc., et incapables d'arriver à survivre à 3 ou 4 en faisant un spectacle. Les choses, l'économie, la démographie permettent de recommencer ça au début du XVe siècle et on va avoir un certain nombre de pièces qui vont commencer à tourner, à être connues, qui seront en général des réécritures de fabliaux, mais certains fabliaux semblent être des réécritures à une seule voix de farces antérieures. Donc vous voyez, les choses sont un petit peu complexes. Ce qu'il y a de certain, et ce sur quoi je voudrais terminer le cours d'aujourd'hui, c'est que la farce n'est pas le petit intermède comique qu'on met au milieu d'un mystère. Certaines personnes ont associé le mot latin satura, qui veut dire la farce, c'est-à-dire ce qu'on met à l'intérieur d'une volaille, à la farce médiévale en disant on va mettre quelque chose qui a du goût au milieu d'une grosse volaille insipide, on va raconter une histoire gaillarde, un petit peu, en général un petit peu sexuelle, en tout cas très rigolarde, au milieu d'un mystère religieux. Alors certes, on a quelques attestations de farce au milieu de mystères. Entre autres, en 1492, le mystère de Saint-Martin, au milieu de lequel il y a l'histoire du meunier qui a vendu son âme au diable. Bon. Le problème, c'est que le mot de farce, on le retrouve de façon indépendante dès le début du XVe siècle, toujours avec le sens de bon tour, entourloupe, arnaque, rigolade, moquerie, mise en boîte. C'est toujours ce sens-là qu'on voit apparaître. Faire une farce à quelqu'un, ce n'est pas lui mettre un élément savoureux à l'intérieur du corps, etc. C'est bien se moquer de lui, arriver à lui faire une arnaque quelconque. Donc, s'il vous plaît, même si c'est quelque chose que vous verrez chez les bons auteurs, oubliez les bons auteurs. Michel Rousse est un bon auteur qui a montré ça il y a une dizaine d'années maintenant de façon définitive. Ce n'est pas la peine de répéter quelque chose de stupide sous prétexte que c'est vieux. Et quand je me tue à vous expliquer quelque chose, ne me dites pas d'un air contrit ensuite « Ah ben je l'ai lu dans un livre ». Moi aussi il m'arrive de lire des livres, donc croyez de temps en temps ce que je vous dis, ça gagnera du temps. Enfin, je dis ça parce qu'il y a 2-3 ans, j'ai eu des étudiants qui m'ont raconté des conneries parce qu'ils les avaient vues dans les livres. C'est bien la peine que je me décarcasse. Allez, c'est fini.